nos sélections.
Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Le père me dit bonsoir fiston, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, flambaigne. Le lendemain comme tous les jours, je vais au lycée. Je rencontre dans la cour mon prof d'anglais. Elle me dit bonjour jeune homme, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, flambaigne. Proviseur m'a convoqué le lendemain dans son cabinet privé pour un entretien. Il me dit essuyez vos pieds avant d'entrer. Je lui ai dit écoute mon pote, tu me laisses causer. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève fumier, blanc viré. Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné.
Eh bien, c'est un peu étrange dans cette musique, Cindy. Hein? C'est bien. Alors, Fanny, t'as entendu cette musique, un peu particulière, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, c'est vrai que ça fait vraiment le contraste. Un
ouais.
peu entre...
un trait de monde, parce qu'en fait, la première de ces chansons, en fait, c'est une chanson très douce de Louis Armstrong qui s'appelle « What a Wonderful World oui. », plus ou moins. Et « Monde merveilleux ». Et ça a été un succès, ça a été un tube en Suisse. Et pas seulement, d'ailleurs, en 1968. Voilà. Ça, c'est une chanson très douce. Et en même temps, pendant cette période-là, de l'autre côté, on chantait, ou plutôt on criait sur les barricades. Et donc, il y a cette petite chanson qui a ce nom légèrement inconvenant pour les personnes respectables, qui s'appelle Crève Salope, qui est la première chanson des Renaud. Donc, c'est un chanteur connu. Et à sa décharge, si j'ose dire, il faut dire qu'il a écrit quand il avait 16 ans. Et donc...
Il y a tout l'esprit rebelle de l'adolescence
voilà,
qui transparaît.
Voilà, ouais, il y avait un tract. Je crois qu'il a pris même les mots d'un tract qui circulait là, et puis là, il a fait ça. Et ça a été la chanson, en quelque sorte, l'hymne des jeunes sur les barricades en 1968. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a ces deux contrastes entre ce monde merveilleux où les couleurs de l'arc-en-ciel, comme dit la chanson de Armstrong, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel qui se reflète dans les visages, les gens te serrent la main et te disent « Comment tu vas ?» Mais en fait, ils sont en train de te dire « Je t'aime », alors que là, de l'autre côté, sur les barricades, ils te serraient la main pour t'attraper, si tu veux. Mais bon, comme on est dans les barricades et dans ce qui se passe à côté, on va parler un petit peu des livres, parce qu'on est quand même à la bibliothèque sonore. Alors, je crois que tu avais une petite sélection des livres qui pouvaient nous donner un petit peu l'ambiance de l'époque.
Oui, effectivement. Alors, dans notre collection, j'ai sélectionné, si je peux dire, 6 pavés, qui représentent un peu l'événement sous divers aspects. Donc, avec ces documents, on a un peu l'avant, le pendant et l'après mai 68 qui sont abordés, avec autant des documentaires qu'une autobiographie en 2 volumes, mais aussi des fictions, notamment Suisse romande. Donc, c'est avec Anne Wiazemski que nous entamons cette petite présentation. Si vous êtes d'accord.
Oui.
L'actrice et écrivaine française relate sa jeunesse sur 2 ouvrages. Le premier se situe avant 68, donc aux alentours de 1966-1967, et s'intitule « Une année studieuse ». Il porte le numéro BSR 18438, si jamais. Donc en fait, le livre s'attarde sur la vie estudiantine de l'auteur, ainsi que sa rencontre avec le cinéaste Jean-Luc Godard, de 20 ans son aîné, avec qui elle entretiendra une relation amoureuse. Donc on pense bien que cette relation amoureuse ne va pas forcément plaire à son entourage, en tout cas pas à ses parents. Et donc elle va vraiment s'opposer à cette pensée conservatrice de l'époque. Et voilà, ça marquera aussi un petit peu le fossé générationnel du moment, avec la quête de la liberté amoureuse notamment, de ce moment-là. Donc elle nous décrit un peu tous ces conflits qu'elle peut connaître, et puis aussi cette joie de cette rencontre, et puis tous leurs projets un petit peu cinématographiques qui vont un peu s'inscrire par la suite. mais elle nous parle également de sa vie mouvementée en tant qu'étudiante, parce qu'elle va s'inscrire à la faculté de Nanterre en philosophie, où elle va rencontrer des personnes très influentes dans le mouvement de la révolte estudiantine, notamment celle du 22 mars avec Daniel Cohn-Bendit. Donc voilà, c'est lui qui va être un petit peu à la tête de tout ce mouvement de révolte estudiantin. Et voilà, elle nous raconte un peu ses rencontres qu'elle a eues à l'Uni, son amour avec Jean-Luc Godard. Et puis voilà, donc tout un programme. Alors le numéro de ce livre, c'est le 18438.
Un jour de juin 1966, j'écrivis une courte lettre à Jean-Luc Godard, adressé au Cahier du cinéma, 5 rue Clément Marot, Paris 8e. Je lui disais avoir beaucoup aimé son dernier film, Masculin-féminin. Je lui disais encore que j'aimais l'homme qui était derrière, que je l'aimais, lui. J'avais agi sans réaliser la portée de certains mots, après une conversation avec Ghislain Cloquet, rencontré lors du tournage d'Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Un soir, aux environs de 10 heures, le téléphone sonna. Nathalie alla répondre, puis cria mon nom. Elle avait une drôle d'expression quand elle me tendit le combiné. « Il dit qu'il est Jean-Luc Godard, » murmura-t-elle, incrédule. La voix, au téléphone, était bien la sienne. Ma lettre était bien arrivée au Cahier du cinéma. Et si mon interlocuteur avait tardé à me répondre, c'est qu'il se trouvait alors au Japon. J'avais aussi omis de mettre mon adresse et mon numéro de téléphone. Il avait aussitôt appelé la productrice Mag Bodard, puis mon domicile. Ma mère lui avait répondu que je me trouvais quelque part dans le sud et que j'étais difficile à joindre. Il avait beaucoup insisté en lui disant que c'était très important et que même à 10 heures du soir, il devait d'urgence me parler. Avec réticence, elle avait fini par céder. « J'ai besoin de vous voir demain. Où êtes-vous? Comment puis-je vous retrouver ?»
Donc son deuxième ouvrage fait suite justement à ses années d'étudiante. Et il est en plein cœur des événements de mai 68 cette fois. Alors cet ouvrage s'intitule « Un an après » et il porte le numéro 20923. Donc voilà, dans ce livre, les luttes sont vraiment très bien illustrées entre les étudiants et les policiers. Et cette fois, on n'est plus vraiment dans le... Voilà, dans l'amour, dans la quête de la liberté, mais on parle vraiment des violences, des bagarres. Donc ça la marque très fortement. Donc dans le livre, il y a beaucoup ce rapport avec la violence et puis l'inquiétude que ça pouvait engendrer en fait dans le couple. Notamment Jean-Luc Godard était assez militant à l'époque, notamment par le biais de ses films. Et puis voilà, il avait souci en fait pour Anne Wiedzemski que ça se passe mal au niveau de ses études et autres par rapport à toutes ces violences, ces interdits. Et puis dans cet ouvrage également, l'auteur se livre un peu plus au niveau personnel. Elle y explique leur projet cinématographique qu'ils ont en commun parce qu'elle va jouer pour son compagnon. Et voilà, on voit aussi un petit peu la dégradation de leur relation dans cet ouvrage. Donc il y a autant des événements un peu généraux sur mai 68 que la vie intime de ce couple vraiment bien connu aujourd'hui. Donc voilà pour les autobiographies du moment. Alors je rappelle le numéro de cet ouvrage, c'est le 20923.
La traque des étudiants se poursuivait boulevard Saint-Germain et rue Saint-Jacques. Des groupes de jeunes, garçons et filles mélangés, se battaient à main nue contre les matraques des policiers, d'autres lançaient différents objets ramassés sur les trottoirs. Parfois, des fumées m'empêchaient de distinguer qui attaquait qui. Nous apprendrions plus tard qu'il s'agissait de gaz lacrymogène. Le téléphone sonna. C'était Jean-Luc, très inquiet, qui craignait que je n'aie pas eu le temps de regagner notre appartement. « Écoute, Europe numéro 1, ça barde au quartier latin. » Nous étions le 3 mai 1968.
Après ce récit de vie entre l'avant, le pendant, l'après mai 68, on vous suggère un documentaire aux allures mythologiques, si je puis dire. Donc Janus, du roman « Des commencements et des fins » s'invite dans l'ouvrage de Jean-François Sirinelli. « Mai 68, l'événement Janus ». Donc vous retrouverez ce document sous le numéro BSR 32943. Donc là, c'est vraiment un documentaire où l'auteur fait vraiment une contextualisation historique très poussée. Et il nous explique énormément de choses dans le contexte sociétal de l'époque. Il nous explique également les changements des mœurs et des idées que connaissaient déjà les années 65. Pas seulement au niveau politique ou de la société en général, mais aussi dans des cadres plus intimes, qui ont affaire au privé, par rapport justement à la liberté sexuelle, notamment. Il en parle pas mal dans son livre. Il explique aussi les différences au niveau de la qualité de vie. Donc on a la qualité de vie par rapport à la période de la Deuxième Guerre mondiale qui a augmenté. Qu'on est beaucoup plus prospère, donc on a aussi d'autres questionnements. Et il y a toutes les questions des sociétés qui bougent. Mais par contre, les réglementations, elles sont toujours présentes. Et puis, on connaît des changements d'un côté, mais pas forcément d'un autre. Donc, il parle vraiment de ces ambivalences aussi, entre ce qu'on souhaite et puis les attentes qui ne sont pas forcément... concrétisées, qui ne sont pas forcément satisfaites. Voilà. Il nous parle beaucoup aussi de la différence des générations chez les jeunes, que ce soit les étudiants ou bien les personnes actives. Et, il a un petit peu un ton d'amertume en parlant des jeunes, parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de violence dans leurs propos et puis que ça peut aussi desservir certains débats. Et que il se questionne en fait sur la façon de militer à l'époque. Et puis, c'était pas forcément tout rose, quoi.
Il est réactionnaire.
Voilà, oui, quand même, hein, un petit peu. Enfin, il essaye d'être neutre. Hein. J'ai l'impression qu'il essaye d'être neutre, mais qu'il nous montre un petit peu d'autres facettes qu'on pense pas forcément au premier abord. Voilà. Il parle d'ailleurs de révolution mimée. Donc, pour lui, c'est pas forcément un événement. Qui a causé énormément de changements positifs. Quoi.
Je leur ai dit de faire attention à Renault.
Donc voilà, pour ce documentaire, qui, je rappelle, porte le numéro 32943.
Retracer la chronologie de mai 68 ne pose plus guère de difficultés. De nombreux acteurs ont livré leurs témoignages. Les archives sonores et visuelles ne manquent pas. En revanche, comprendre sans parti pris le mythe de fondation de la génération aujourd'hui aux commandes, voilà qui est plus délicat et rarement tenté. Il faut tout le souffle et toute la connaissance du XXe siècle de Jean-François Sirinelli pour inscrire ces 6 ou 8 folles semaines dans le temps long de notre histoire. Sa science à la fois des réseaux du pouvoir et des courants qui parcourent la jeunesse, lui fournit des éclairages inédits. La tâche est assurément complexe, car mai 68 a été...
Donc pour rester dans les transitions et le mode documentaire, passons de grand soir en petit matin avec l'historienne Ludivine Bontini. Donc son ouvrage, qui s'intitule d'ailleurs « De grand soir en petit matin », porte le numéro BSR 36362. Donc en fait, cette historienne, c'est une spécialiste du XXe siècle. Et puis, elle a énormément travaillé avec les archives, notamment de toute la France, pour reconstituer un peu l'événement dans toutes les classes sociales. et puis restituer aussi toute l'énergie des luttes, des débats, des émotions. Donc là, c'est vraiment une approche assez positive, par contre, elle. Et puis, vraiment pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu forcément, pour redonner la parole à ceux qu'on a pu un peu ignorer par rapport à tous ces événements. Voilà, elle parle des ouvriers, des étudiants, des médecins, des paysans, des poètes. Donc, elle donne vraiment la parole à tous ces gens au travers de ces archives. Donc, c'est très bien documenté. Et puis, elle s'intéresse également, pas seulement aux militants, mais aussi aux forces de l'ordre, à la police. Tout en restant neutre, j'ai l'impression. Donc voilà quoi. Elle essaye aussi de donner une vision d'ensemble correcte par rapport à tout ça. Mais ouais, il y a une belle énergie dans son ouvrage quoi. Il a été publié il y a pas longtemps en 2018, donc mois de janvier 2018, donc un ouvrage tout récent. Donc je rappelle le numéro, c'est le 36362.
L'événement au présent. Une jeune femme parcourt à pas vif les galeries du Musexic. Est-ce par amour de l'art? Par goût de l'histoire? Ou par attirance irrépressible pour ce guide un peu timide, souvent sur son compte à soi et qu'elle appelle « mon roi » Elle l'écoute des heures durant raconter les parcelles de passé que le musée recèle. Elle compatit aussi à ses doutes mal dissimulés et ses hésitations tourmentées. L'homme a beau être savant et fervent, il ignore qui étaient exactement les étudiants nommés Renaud, Cléon, Flin, Platon, Héraclite et Boulogne-Billancourt. Avec une douloureuse perplexité, il évoque cette statue, à jamais perdue si tant est qu'elle ait existé, d'un étudiant au point levé, un certain Hercule C. Bendit. La statue aurait figuré parmi les sept merveilles du monde, érigée pour célébrer la révolution dite « de mai ». Là encore rien n'est moins sûr, il n'en demeure que quelques allusions dans des peintures, réalisées longtemps après. La jeune femme s'interroge. De quel type de révolution pouvait-il s'agir? Mon roi n'en sait rien. Personne ne le sait.
Alors pour finir, on va passer aux fictions avec deux auteurs suisses qui se rejoignent d'ailleurs pas mal, en tout cas dans ces deux ouvrages, par rapport aux thématiques abordées, je trouve. Alors, le premier s'intitule « Chromosome 68 ». Il est de Nicolas Verdun et porte le numéro 19150. Donc en fait, c'est un roman historique qui parle de deux jeunes gens qui se rencontrent. Alors il y a, si je me rappelle bien, voilà, elle s'appelle Laura, c'est une urgentiste qui va devoir soigner un manifestant blessé lors d'émeutes, en fait, qui se prénomme Bruno. Et puis avant cet événement, Laura, en fait... Voilà, elle était un peu en dehors de tout ça, elle n'en donnait pas forcément une grande importance. Tous ces événements, en fait, parlent de l'après 68, parce que Bruno, c'est un manifestant contemporain, et Laura, ce n'est pas du tout une fille qui cherche à faire des révolutions, ni même des révoltes. Et quand elle va rencontrer ce jeune homme, en fait, ça va lui remémorer un peu la vie de ses parents. Et ils vont ensemble redécouvrir un petit peu le passé de leurs parents qui ont vécu cette époque de 68-70. Avec beaucoup d'amertume aussi, malgré tout, parce qu'ils vont se rendre compte que dans leur enfance, ils n'ont pas connu leur père par deux raisons différentes. Pour l'une, c'était que... Il était toujours en train de militer. Il était embrigadé dans la Brigade Rouge, justement. Donc voilà, il n'était jamais à la maison pour s'occuper de sa famille. Et puis c'est comme ça qu'elle a vécu cet événement. Et Bruno, sa maman était un petit peu hippie sur les bords. Et puis avait vraiment des relations un peu partout. Et finalement, c'est pour ça qu'il ne connaît pas du tout son père. Et puis... c'est vraiment deux jeunes qui sont un petit peu en recherche d'identité et qui partent un peu en quête de ce passé un peu trouble. Et puis, voilà, donc l'auteur, en fait, parle de cette génération d'après mai 68 avec beaucoup de recul. Et puis, voilà, il dit qu'il ne juge ni les uns ni les autres, mais qu'il reste quand même pessimiste quant au changement parce que Voilà, c'est cette période de révolte, pour lui, ça n'a pas fait changer les choses au niveau politique depuis 30 ans en France. Donc c'est toujours les mêmes qui gouvernent. Et puis voilà, quoi, ça n'a pas forcément amené que du bon pour la jeunesse. Et puis on leur a donné un petit peu des illusions quant à un monde meilleur. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben voilà, on se rend compte qu'il y a toujours des guerres, qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas, des inégalités dans le monde, même en Europe, hein, du terrorisme et compagnie. Donc c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire.
C'est pas les wonderful.
Voilà, voilà, exactement. Mais bon, il ne faut pas être pessimiste non plus. Hein. Alors oui, je vous rappelle le numéro de cet ouvrage de Nicolas Verdun. C'est le 19150.
Oui, le 4 septembre 1968 à Milan. Mais tu ne peux pas comprendre. Le train filait vers Paris et moi je revoyais papa s'en aller avec sa veste sur les épaules. Il la portait à la manière d'une cape, tu sais. Nous habitions Milan. J'avais 9 ans. Le jour où il est parti, il y avait du smog. Mais c'est sans importance. Il y a sans cesse du brouillard à Milan. Nous vivions dans ces grandes barres de briques rouges au terminus du 6. Tu passes devant quand tu roules sur le périphérique nord, direction Bologne. Tu ne peux pas manquer ces immeubles. Aujourd'hui, on les reconnaît à leurs balcons où sont accrochés des drapeaux pace. Les jours d'été, on étouffait dans notre 3 pièces. Quand on respirait, c'était comme si on inhalait des millions de petites lames qui se collaient aux bronches. Papa est parti sur la pointe des pieds. Mama fumait en silence dans la cuisine. Elle avait ce regard froid que je détestais. Papa lui a dit ciao, rien d'autre. Il semblait triste, soulagé aussi. Comme si un événement attendu s'était enfin produit. Il m'a prise dans ses bras et il a glissé une lettre dans la poche de ma jaquette. « Tiens, Laura, ne l'ouvre pas maintenant. Tu la liras quand tu seras grande et tu comprendras. » Il m'a embrassée, il a ouvert la porte, l'a refermée comme si elle avait été en porcelaine. C'était un homme délicat, d'une douceur incroyable. J'ai entendu l'ascenseur qui descendait. Je me suis précipité sur mon lit. De là, je voyais l'allée qui conduisait au parking. La lettre. Tu l'as lue, bien sûr. Chromosome 68, c'est l'histoire de la génération d'après mai 68. Laura, urgentiste, soigne Bruno, un manifestant blessé lors des émeutes du sommet du G8 à Gênes en 2001. Elle se lie peu à peu avec lui et découvre alors l'importance de son propre père, militant proche des Brigades Rouges, qui les a quittés, elle et sa mère, pour rejoindre la clandestinité et qui a fini sa vie en prison. Ici, c'est une autre voix que celle de la génération 68 qui s'exprime. La voix d'un représentant de la génération suivante, presque d'un autre monde.
Et donc, pour terminer cette petite sélection, je vous propose l'ouvrage d'Alain Bagnou, qui s'intitule « Rebelle ». Il porte le numéro 35334. Donc, Rebelle, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est guitariste et journaliste, en fait. Mais il est un petit peu perdu dans sa vie parce qu'il se fait, voilà, il se fait renvoyer de son métier, de son journal. Donc, il est un peu perdu, il n'a plus de métier. Avec sa petite amie, ça ne va pas très bien non plus. Et puis, voilà, sa vie n'est pas de tourpeau. Sa maman, c'est un peu une mère un peu hippie qui a justement connu ces années 70 très, très virulentes. Et il va rencontrer en fait un musicien, un vieux bluesman avec qui il va vraiment créer un lien, déjà par la passion de la musique, par la passion du blues, et puis ensuite, voilà, pour ce personnage lui rappelle un peu ses parents, et puis il part justement aussi en quête de son passé, par le biais de ce musicien. Et voilà, il va essayer de trouver des réponses à ses questionnements, et puis aussi par rapport à sa place qu'il a lui dans le monde, par rapport à tous ses déboires, comment est-ce qu'il peut avancer, son adhésion au monde, ses idées politiques, comment est-ce que ses parents se sont débrouillés à l'époque, pourquoi est-ce que sa mère était hippie, pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas son père non plus. Donc voilà, ce musicien remplace un petit peu aussi la figure du père dans cette histoire. Et puis voilà, ça l'aide à poursuivre sa quête personnelle. Et puis ça donne aussi un petit côté positif malgré tout.
Oui. Et donc, oui, très bien. C'est quel numéro donc celui-là ?
Donc celui-ci, c'est le numéro 35334.
Jérôme est guitariste de rock et jeune journaliste culturel un peu à la dérive. Lors d'un séjour à la montagne, il fait la connaissance d'un vieux bluesman qui a été son idole. Cette rencontre le lance dans une recherche fantasmatique, puis réelle, de son père, qu'il n'a pas connu. Enquêtant sur la jeunesse de sa mère, une groupie écolo et vagabonde devenue artisane, il découvre les années 70, leurs valeurs alternatives, leur lutte politique, leur musique, leur art, leur contestation, leur paranoïa, leur spiritualité. Dans cette entreprise, il se retrouve entre deux femmes, Carole, qui fait partie d'une secte, et Gloria, une actrice innocente et perverse. Conclusion, les réponses sont en ceux qui les cherchent. Encore faut-il les voir. Peut-être concerne-t-elle toujours l'acceptation de soi et l'adhésion au monde, plus ou moins.
En 68, il n'y avait pas seulement des gens qui jetaient des pierres ou qui faisaient les barricades ou des choses derrière les barricades ou devant les barricades ou le soir sous les barricades. Mais il y avait aussi des gens qui écrivaient d'autres choses. Et c'est une année extrêmement riche du point de vue littéraire. Donc, sous les pavés, il y avait aussi des pages qui s'écrivaient et parmi ces pages, il y a des pages des auteurs incroyables. Bon, il faut dire aussi que cette année a été riche en prix littéraire. Un des prix littéraires, le prix Renaudot, qui est en lecture à ce moment à la BSR, donc il sera bientôt disponible, était la première fois qu'on donnait un prix littéraire à un Africain. Donc ça, c'est une révolution peut-être presque plus grande que de jeter du pavé contre les flics. Et cet Africain qui était un Malien, qui s'appelle Ologem, c'est un peu difficile à prononcer, et il s'appelle par contre « Les devoirs de violence ». Donc il y a un lien quand même, mais le livre parle de la colonisation en Afrique et pas des pierres qui volaient dans Paris. Néanmoins, dans cette année-là, il y a eu d'autres prix littéraires intéressants, comme par exemple le prix Femina de 1968 qui a été octroyé à Marguerite Yourcenar. Et Marguerite Yourcenar, c'est grande auteure qui a été adoptée par les Français, parce qu'elle était belge à la base, mais on sait que les Français prennent tout ce qui est bon. Et donc, les pavés, ça en prennent de temps en temps des pavés aussi, mais en l'occurrence, c'était L'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est un des grands romans de Marguerite Yourcenar, autre les mémoires d'Adrien. Et l'œuvre noire, bon, ça se déroule au XVIe siècle, ça raconte la vie des Zénon, c'est un jeune homme en quête des sens et des vérités, parcourt l'Europe. C'est toujours porté par une langue somptueuse, comme toujours chez Marguerite Yourcenar, et ça finit pas bien. Et l'œuvre noire, c'est pas parce que ça finit pas bien, c'est un lien avec l'alchimie. On sait qu'il y a 3-4 étapes dans l'alchimie, et ces 4 étapes qui ont un côté physique, parce que l'alchimie était liée à la physique, à la chimie, pardon, mais un côté magique, mais aussi un côté spirituel, parce que c'est un processus, le processus aussi des purifications et des sublimations de l'âme. Et ce livre magnifique qui a obtenu le prix Femina 1-68 porte les numéros vénérables de 14159.
En créant le personnage de Zénon, alchimiste et médecin du XVIe siècle, Marguerite Yourcenar, l'auteur de Mémoires d'Adrien, ne raconte pas seulement le destin tragique d'un homme extraordinaire. C'est toute une époque qui revit dans son infinie richesse, comme aussi dans son âcre et brutale réalité. Un monde contrasté où s'affrontent le Moyen-Âge et la Renaissance, et où pointent déjà les temps modernes, monde dont Zénon est issu, mais dont peu à peu cet homme libre se dégage, et qui, pour cette raison même, finira par le broyer.
Ça, c'est un des beaux livres qui n'a rien à voir avec mai 68, mais qui a été publié en 68. Et un autre livre aussi emblématique, c'est célèbre, qui a été publié en 68 et qui est d'une certaine manière l'œuvre d'un Suisse, puisqu'elle a été naturalisée de Suisse à un moment donné, c'est le livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. La Belle du Seigneur a été publiée en 1968 aussi. Vous voyez que l'ambiance n'est pas exactement la même. Et alors, Belle du Seigneur, c'est un livre qui est beaucoup plus qu'une histoire d'amour, bien que ce soit une grande histoire d'amour entre Solal et Ariane, qui est une histoire magnifique. Ce sont des personnages très beaux. Et Solal qui travaille donc dans la Société des Nations. L'ONU n'existait pas encore. Et c'est cette période cruciale, en fait, qui va marquer la déconfiture de la Société des Nations. Et Hitler est au pouvoir. Et donc, il y a la guerre qui se profile. Et ça, c'est la toile de fond, parce que bon, l'essentiel, bien sûr, c'est l'histoire d'amour. Et Solal, qui est lucide, qui est juif, donc, essaye d'avertir, mais il se fait un peu ostraciser, pas seulement par tout ce qui se passe autour de l'histoire d'amour, que je ne vais pas raconter pour ceux qui n'ont pas lu les livres, mais aussi par rapport justement à cela, puisque au sein même de la Société des Nations, l'antisémitisme est monnaie courante, y compris par les autres, dans les autres pays, pas seulement l'Allemagne. Et du coup, ça c'est la toile de fond, mais au centre de tout cela, il y a cette histoire d'amour entre deux personnes passionnées, mais qui, malheureusement, le monde n'est pas fait, on n'était pas fait à l'époque, je ne sais pas si maintenant il est fait pour ce type de relations sublimes. Donc, mais je laisserai nos auditeurs et nos auditrices pénétrer dans ces grands romans qui portent le numéro 17667.
Je peux lui faire tes messages, n'est-ce pas? Comment? Que je lui dise tes hommages, plutôt? Oui, c'est vrai, c'est plus fin. C'est une personne tellement distinguée. Pardon? Bon, comme tu voudras. Je vais lui dire de venir. Elle est naturellement à son piano. Attends un moment. Un silence, puis la voix de nouveau. Elle te fait dire qu'elle ne peut pas venir à l'appareil, vu qu'elle ne peut pas interrompre sa sonate. Oui, mon chéri, c'est comme ça qu'elle a dit. Écoute, mon Didi, ne te donne pas la peine de rentrer. Déjeune tranquillement à la perle du lac. Au moins, on s'occupera de toi. Maintenant, je te laisse. Il faut nous dépêcher. Alors, au revoir, mon chéri. À ce soir, tu trouveras toujours ta mamie fidèle au poste. Tu sais que sur elle, tu peux compter. De retour dans la chambre, il s'étendit sur le lit, huma l'autre colonne, cependant que du salon montaient les scènes d'enfants de Schumann. « Joue, ma belle, joue. Tu ne sais pas ce qui t'attend, » murmura-t-il, et il se leva brusquement. « Vite, le déguisement. » Il endossa l'antique manteau d'étain, si long qu'il descendait jusqu'aux chevilles et recouvrait les bottes. Il se coiffa ensuite de la misérable toque de fourrure, l'enfonça pour dissimuler les cheveux, noirs serpentaux. Devant la psyché, il approuva le minable accoutrement. Mais le plus important restait à faire. Il enduisit les nobles joues d'une sorte de vernis, appliqua la barbe blanche, puis découpa deux bandes de sparadrap noir, les plaqua sur ses dents de devant, à l'exception d'une à gauche et d'une à droite, ce qui lui fit une bouche vide où luisaient deux canines. Dans la pénombre, il se salua en hébreu dans la glace. Il était un vieux juif maintenant, pauvre et laid, non dépourvu de dignité. Après tout, ainsi serait-il plus tard. Si pas déjà enterré et pourrissant, plus de beau Solal dans 20 ans. Immobile, soudain, il écouta. Des bruits de pas dans l'escalier, puis l'air de chérubin. « Voi che sapete che cosa è amor. »« Oui, chérie, je sais ce qu'est l'amour, » dit-il. S'emparant dans la valise, il s'élança, se dissimula derrière les lourds rideaux de velours.
Donc, voyant 68, ce belle chose, et il se trouve qu'en dehors de la France, on écrivait aussi, et de la Suisse, hein, ça semble étonnant, mais on écrivait aussi, et en 1968, il y a un livre qui a été traduit en français et publié en France, bien qu'il a été écrit 2 ans auparavant. Mais il est publié en France pour la première fois en 1968. Il s'agit des 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est aussi un sacré morceau. Garcia Marquez, qui a été prix Nobel de littérature. Et donc, c'est un écrivain colombien. Et « Cent ans de solitude », c'est un livre qui marque, en fait, ce qu'on allait appeler, parce qu'il faut toujours mettre des étiquettes, et pas seulement sur les jeans, etc., mais aussi sur les courants littéraires. Et donc, il a écrit ce livre qui, comme je disais, fait partie, ou en tout cas, c'est le chef de file et les livres emblématiques de ce qu'on appelle le réalisme magique. Le réalisme magique, c'est ce courant latino-américain dans lequel il y a l'histoire, les fantastiques, les réels. On peut pas différencier parce que le monde est tellement fantastique que la réalité même est déjà dépasse en fait ce qu'on pourrait écrire. Et ce qui rappelle un peu une anecdote. Je sais pas si je l'ai raconté une fois, mais qui n'a rien à voir avec ça, mais donc les papes des Bretons, André Breton, les papes du surréalisme, si on peut dire, va en Mexique une fois, et à l'époque, hein, c'était bien avant cela, il rencontre Frida Kahlo, Diego Rivera, qui l'amène à la fête, c'était les jours des morts, Frida Kahlo le pique sa femme, et il se passe des tas de choses assez particulières. Et puis, le lendemain, André Breton prend un billet d'avion, et puis quand Diego Rivera lui dit mais vous partez déjà, il dit oui, le Mexique, c'est un pays trop surréaliste pour moi. Et donc, c'est un peu ça, le réalisme magique. C'est trop surréaliste c'est le réel, la fiction en même temps. Et c'est un livre magnifique qui se passe dans un petit village qui s'appelle Macondo. Et là, il y a toute l'histoire, une famille qui se prolonge. Donc, il y a plusieurs générations. Il y a des histoires très rigolotes parce qu'il y a deux cousins qui se marient et puis sont peur parce qu'on leur a dit que s'ils se marient entre cousins, les enfants naîtraient avec une petite queue de cochon. Enfin, une queue de cochon. Et donc, il y a toute cette histoire, mais il y a tout ce monde onirique qui est un peu est réel à la fois. Et donc, ces livres magnifiques, Cent ans de solitude, portent le numéro extrêmement vénérable, Marc, de 1708.
Il s'agit d'une épopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l'histoire cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latino-américaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de l'histoire. Cent ans de solitude est une œuvre de fantaisie et d'imagination qui fait revivre chez ses héros la chronique de faits réels, auxquels personne ne croit plus, mais qui ont aussi bien affecté leur vie qu'ils en gardent une immense nostalgie.
Et donc, ensuite, bon, on sort de l'Amérique latine et on revient dans un endroit où pour les cas, le réalisme n'est pas magique, mais plutôt cauchemardesque. C'est l'Europe de l'Est, des années 50-60. Le livre a été publié donc en français en 1968 aussi. Et c'est le livre de Milan Kundera, qui s'appelle La plaisanterie. Alors, il a écrit l'insoutenable légèreté des lettres, etc. Mais La plaisanterie, ça raconte quelque chose qui aurait pu être une plaisanterie. C'était les années 50. Il y a un gaillard jeune, brillant, jeune membre du parti qui fait une plaisanterie des mauvais goûts, on va dire. Mais malheureusement, ça lui coûte son avenir, si j'ose dire. Et ensuite, il essaie de se venger d'une des personnes qui lui a fait du tort. Mais ça se passe mal. Et donc, c'est un livre qui est assez abusé parce que ça montre d'un côté comment les êtres humains peuvent être, ça montre aussi la mauvaise plaisanterie que le destin nous fait et les masques qu'il faut porter parfois pour tenir dans une société qui est cette société communiste des pays de l'Est, de la Tchécoslovaquie de l'époque, et qui d'ailleurs l'histoire elle-même se déroule avant 68. Le livre a été publié en 68 et on sait qu'en 68 les chars russes entre en Tchécoslovaquie. Donc il y a beaucoup d'éléments. Le livre a été publié. Donc là c'est un peu différent. C'était pas la plage sous le pavé, mais c'était les roues des chars sous le pavé qui entraient à Prague. Donc un autre livre 68 et qui porte le numéro 16069.
Ce soir, j'irai me coucher tôt. Je ne sais pas si je pourrai m'endormir. Mais j'irai me coucher tôt. Pavel est parti cet après-midi pour Bratislava. Moi, demain de bonne heure, en avion jusqu'à Brno. Et à présent, car ma petite Zdena restera 2 jours toute seule à la maison, ça ne la dérangera pas. Elle ne tient guère à notre compagnie, du moins pas à la mienne. Elle adore Pavel. Pavel est sa première idole masculine. Il faut reconnaître qu'il sait s'y prendre avec elle, comme il l'a toujours su avec toutes les femmes, moi comprise. Et ça reste vrai. Cette semaine, il a recommencé à se comporter avec moi de la même manière qu'autrefois. Il me tapotait le visage et me promettait qu'il passerait me prendre en Moravie à son retour de Bratislava. D'après lui, il faut que nous nous remettions à causer. Peut-être en est-il lui-même arrivé à reconnaître que ça ne peut plus continuer ainsi. Peut-être veut-il que tout redevienne entre nous comme avant, mais pourquoi y pense-t-il si tard, maintenant que j'ai rencontré Ludwig? J'en suis tout angoissé, pourtant je ne dois pas être triste. Je ne dois pas que la tristesse ne soit jamais liée à mon nom.
Pour continuer un petit peu, pour aller un petit peu plus vers l'est, parce qu'on va, puisqu'on est par là, on va remonter, et on arrive à un autre livre qui a été écrit pendant longtemps. Et l'auteur est mort et il n'a pas vu son livre publié. Et le livre lui-même a été publié en 1966 en russe, parce que c'est un livre russe, mais en français. En français, pour la première fois, il a été publié justement en 1968. Et il s'agit du Maître et Marguerite de Bulgakov. Ça, c'est aussi un classique, c'est un des grands livres de la littérature russe. Et un livre complètement fou, loufoque, et terrible à la fois, puisque... alors, ça se déroule en deux temps. Alors, les personnages, c'est qui les personnages de ces bouquins? Il y a les diables. Il y a le maître, donc il écrit un écrivain. Il y a Marguerite, l'amoureuse. Et il y a Jésus. Il y a Ponce Pilate. Il y a un chat géant aussi. On ne sait pas très bien qui c'est ces chats. Il y a un chat. Et il y a plein de personnages complètement fous. Et ça se déroule en deux périodes, parce que ça déroule dans la période stalinienne, et qui est racontée d'un côté métaphorique, parodique, bien sûr, parce qu'il y a tout un côté onirique aussi. Et à la fois, ça se déroule dans l'Antiquité, à la période de Jésus, justement. Il y a Jésus de Nazareth, il y a Ponce Pilate, parce qu'il y a un écrivain qui est en train d'écrire sur cette période-là. Donc il y a un miroir entre les deux mondes, entre ce monde de Jésus, Ponce Pilate, la trahison, et la foi, la vérité, et la lâcheté, etc. Et le monde contemporain, avec tous ces mondes de duplicité, des écrivains véreux, peureux, et puis de ceux qui essayent de dire la vérité. Et c'est d'ailleurs dans ces livres que se trouve cette fameuse phrase « Les manuscrits ne brûlent pas ». Parce qu'à un moment donné, l'auteur, il est... tellement dépité qu'il lance son manuscrit au feu, mais il ne brûle pas. Donc cette phrase, le manuscrit, ça veut dire... Enfin, une des interprétations, c'est que c'est quand même la littérature survit, la vraie littérature survit à tout. Et d'ailleurs, comme anecdote, il faut savoir que dans les manuscrits de Bulgakov lui-même, on a trouvé, parce qu'il était très malade, il avait accepté de ne pas s'opposer à Staline. Il est resté... il a fait profil bas, et Staline, qui l'aimait malgré tout, lui interdit d'écrire, mais lui donnait un petit quelque chose pour qu'il puisse vivre. Et puis, il écrivait chaque fois sur les bas de page de son manuscrit, « Seigneur, aide-moi à finir mon roman. » Et tellement il était désespéré. Mais le livre, il est magnifique. Il a un humour noir, ou un humour de toutes les couleurs, extraordinaire. Et en même temps, ça montre les horreurs d'un système qui peut casser les personnes. Bien qu'à la fin, dans les livres, il y a une scène qui est très jolie, onirique, dans laquelle Ponce Pilate, bien sûr, qui se sent coupable de laisser Jésus mourir, etc., part. À la fin, il meurt, il part sur un rayon de lune avec Jésus, etc. Mais bon, ça, c'est juste pour mettre un petit peu de beurre sur les cauchemars. Sur les pavés. Et donc, alors, le maître Marguerite de Bulgakov porte le numéro 15403.
Écrit sous la terreur par un homme malade et désespéré, le maître et Marguerite a mis 25 ans pour s'imposer comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature russe et devenir un livre culte dont la construction diabolique n'a pas fini d'enchanter les lecteurs. Comment définir un mythe? Les personnages de ce roman fantastique sont le diable, un écrivain suicidaire, un chat géant, Jésus et Ponce Pilate, la plus belle femme du monde. on y trouve des meurtres atroces et des crucifixions. C'est une satire acerbe, une comédie burlesque, une parodie politique, un poème philosophique dévastateur, avec des fantômes et des transformations magiques. Mais cette fantasmagorie baroque, ce film noir, cette vision d'apocalypse, est aussi l'une des plus belles histoires d'amour jamais écrites.
Alors, comme on est dans les sombres, continuons. Et on avait vu tous ces hippies, tous ces gens qui étaient avant dans ce monde 68. Il y a un livre qui est publié en 68 et qui, d'une certaine manière, va donner ou va être la métaphore de ce qu'il y a de plus sombre et de plus obscur dans cette période-là. C'est un livre d'un écrivain qui s'appelle Burroughs et ce livre s'appelle La Machine Molle. Alors, La Machine Molle, parmi ceux qui seront amateurs de rock parmi nos auditeurs et nos auditrices, je ne sais pas si Marc est amateur de rock, il y a un groupe qui s'appelle Soft Machine, un groupe de rock anglais qui a pris son nom justement de ce roman. Et donc, La Machine Molle, comment la décrire? Enfin, La Machine, le livre lui-même. Alors, c'est un livre complètement défoncé, comme l'auteur, d'ailleurs. Parce que Burroughs, c'était un grand accro à l'héroïne. Et pour moi, c'est un des exemples les plus mystérieux et magiques de comment la génétique peut vaincre les comportements et la vie. Parce que c'était un héroïnomane, un homme qui a vécu, qui a tout fait. Et il est mort très vieux. On m'avait dit à 30 ans, ouais, à 30 ans, c'est trop pour lui. Et pourtant, il a vécu vieux. Et son livre, donc La Machine Molle. Alors, il y a des personnages complètement déjantés, défoncés, fous, etc. Et le livre a été écrit un peu en écriture automatique. Donc, c'est une sorte de folie furieuse dans laquelle il y a aussi un peu d'une sorte de... Bon, c'est pas vraiment de l'érotisme, parce que c'est plutôt le côté obscur, on va dire, de la chose. Mais ça c'est pas l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, qui est pourtant une œuvre lumineuse. Là, on est vraiment dans les sombres, mais ça donne aussi ses penchants, cependant, obscurs de l'époque, et une sorte de qu'on voit dans ces personnages dont on peut parler, Fanny, parfois, de ce monde 68. Et donc, le livre, justement, apparaît en français en 1968, La Machine Molle de Burroughs, qui, lui, par contre, est plus récent dans notre collection, car il ponte les numéros tout jeunes et frais des 33 651.
De même que Jérôme Bosch représentait les détails les plus effroyables et les plus diaboliques avec une infinie délicatesse et un humour à la Puck qui nous évoque les châteaux de l'horreur dont l'enfer est peuplé, de même Burroughs nous laisse avec la vision intime, détaillée de ce que pourrait être l'enfer. Un enfer qui peut-être nous attend, produit final et apogée de la révolution scientifique. Au bout de la médecine est la drogue. Au bout de la vie est la mort. Au bout de l'homme est peut-être l'enfer qui nous vient des vanités de l'esprit. La galerie de monstres, génies à demi-fous, infirmes, charlatans, criminels, pervers et bêtes en putréfaction de l'œuvre de William Burroughs déploie, comme nulle part ailleurs, la panoplie moderne des vanités de l'esprit humain, des excès malfaisants qui apparaissent quand l'idée de puissance personnelle ou intellectuelle est placée au-dessus des compassions de la chair. Norman Mailer.
Donc voilà pour cette sélection 68 qui est pas seulement sur 68, mais pendant 68, car justement on ne va pas seulement montrer ce qui s'est fait, mais aussi les choses donc qui s'est créées.
À
ce moment-là, bien entendu, il y a, je ne sais pas si tu sais, mais en Espagne, il y a un bar à Madrid où, sous l'entrée, c'est écrit « Hemingway n'est jamais venu ici ». Tu sais pourquoi? C'est parce que dans tous les bars, mais voilà, ça c'est le siège de Hemingway, les verres de Hemingway, et c'est un peu comme maintenant en 68, tout le monde parle 68, et lui, les gars, le patron a décidé, voilà, mais moi, dans ce bar, Hemingway n'a jamais été. Et donc, il faut aussi parfois voir l'autre côté de la chose. Néanmoins, comme on est quand même dans la période et dans toutes ces célébrations, célébration aussi de la littérature. Et j'aimerais un peu finir par un livre qui revient un petit peu à ce que tu disais 68, un tout petit livre qui vient d'être publié, qui vient d'être lu d'ailleurs chez nous, et dont je ne parlais pas beaucoup parce qu'il sera dans la liste du BSR Actu. C'est un livre d'Alain Badiou, qui s'appelle, donc philosophe, écrivain, etc., qui s'appelle « On a raison de se révolter ». Et donc, en quelques pages, moins de 100 pages, et donc très peu de, je crois même pas 2 heures, il fait les bilans de son point de vue. C'est un homme engagé, il a un certain point de vue, mais très lucide en même temps, et fait les bilans dès 1968. Et le numéro, c'est le 36849, mais il sera de toute façon dans la liste. Et voilà un petit peu pour ce petit panorama qu'on a essayé de donner des pendant et sur et avec 1968. Merci Fanny.
Merci Benny.